Beauté, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Alliance Plus, bienvenue pour notre émission. Lundi 4 décembre 2023, donc lundi dernier, a eu lieu le colloque de l'APA, Association Protestante d'Assistance, que vous connaissez bien puisqu'elle est implantée à Nîmes depuis très très longtemps et qu'elle travaille beaucoup pour l'aide aux personnes en grande précarité. Ce colloque s'intitulait « Mettons-nous autour de la table » avec le titre suivant « Vers une alimentation durable pour toutes et tous ». Grave question qui a été étudiée sous différents aspects pendant cette journée du lundi 4 décembre qui a eu lieu au cinéma Le Sémaphore comme l'an passé. Nous avons eu plusieurs interventions et je vous propose d'écouter aujourd'hui celle de Jean-Christophe Muller, théologien engagé dans la vie associative et qui a été le pasteur de la maison du protestantisme il y a peu de temps et que donc vous connaissez tous très bien aussi. Son intervention était intitulée « Entre récupération des miettes et invitation au grand festin ». Je vous invite à l'écouter après une courte pause musicale et nous nous retrouvons tout à la fin de cette intervention. Bonne écoute!
Des fois, quand on se met à préparer, on regrette d'avoir eu des premières notes jetées sur le papier. Il y a des fois, quand on prépare plus en détail, on regrette d'avoir donné un titre parce que on se sent un peu engagé. Mais dans quoi je me suis mis ? C'est pas grave. En fait, je voudrais partir d'un point qui est peu connu. C'est que dans la Bible, Ancien comme Nouveau Testament, il est statistiquement fait 2 fois et demi plus de références à des repas qu'à des prières. C'est peut-être un renversement des regards qu'on peut avoir sur ce qu'est la piété. Alors des repas de tout type, hein. Il y a des repas qui sont des moments révélateurs qui peuvent devenir des déclenchements de drames. Il y en a d'autres qui sont au contraire des moments où une situation nouvelle se passe. Il y a beaucoup de mentions de repas, alors dans le Premier Testament, qui indiquent que la ligne que je veux suivre, qui nous mène du texte biblique à des pratiques dans la vie sociale par des habitus un peu éthiques. En fait, quand on parle des sacrifices, mais c'est au fond déjà ce que Francine Cabanne évoquait en parlant des viandes sacrifiées, pourquoi pas devant la maison carrée, mais donc dans le monde juif, amener des sacrifices, alors il y avait des tarifs, si c'était pour la pénitence, pour la communion, pour tout ce qu'on voudra, il y avait des fois où on brûlait tout, c'était la part pour Dieu, ce qu'on appelle l'holocauste. Alors là, j'ai un menu d'holocauste. Tu offriras le premier agneau, un dixième d'effat de fleurs de farine pétrie, dans un quart d'huile d'olive concassée, et une libation d'un quart de hin de vin, de boc de vin. En fait, il y a des fois le sacrifice, on devait tout brûler pour l'Éternel. C'est ça l'holocauste. Mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Le cas le plus fréquent, ces éléments que je viens de citer, agneau, fleurs de farine pétrie, des galettes à fond, et la libation avec du vin, il y en a une part pour Dieu, dans les vieux sanctuaires hébreux, avant même la construction du temple, une part pour les prêtres, il faut bien qu'ils mangent, et une part pour celui qui offre le sacrifice avec ses commensaux. Donc on ne vient pas faire un sacrifice seul, on fait un sacrifice avec des gens qu'on a invités. Alors effectivement, il y a des références des sacrifices royaux ou autres, mais il y avait dans des familles plus pauvres la pratique de faire au moins une fois par an. Là où ça a une importance, c'est cette idée que les chrétiens retrouveront avec le repas eucharistique, c'est cette idée que la communion avec Dieu n'est pas dissociable de la communion avec les autres. Le partage, dans la logique du sacrifice, c'est pas juste un rapport à Dieu ou à des codifications, c'est aussi le rapport avec mes contemporains, mes proches. Sur la question des repas, on sent que il y a quand même un enjeu, puisque la dimension des affamés apparaît souvent, et j'allais dire, au travers des repas, la question de l'indécence de l'exhibition des richesses. Dans les premières communautés chrétiennes, quand il y avait l'Eucharistie, c'était le rappel du dernier repas avec Jésus, c'était pas comme on fait aujourd'hui dans les églises catholiques avec une hostie, ou dans les églises protestantes avec un tout petit morceau de pain et une petite goutte de vin ou de jus de raisin. Non, en fait, le dimanche soir, les chrétiens avaient pris l'habitude de se réunir pour dans des maisons, il n'y avait pas de lieu particulier, c'est plus tard que ça viendra. Mais on allait chez quelqu'un. Et donc c'était souvent chez des gens qui avaient les moyens d'avoir une maison en pouvant accueillir suffisamment de monde. Et là, il y avait un moment où il y avait un temps liturgique qui faisait mémorial du repas du Seigneur, et puis on mangeait. C'était ce qu'on appelle le repas tiré des sacs. Et l'apôtre Paul, dans les années 50, écrit aux Corinthiens en disant « Quand vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au dîner du Seigneur, puisque au moment de manger, donc ce qu'on fait juste après le mémorial, chacun se hâte de prendre son propre dîner, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Méprisez-vous l'Église de Dieu en faisant honte à ceux qui n'ont rien. » Voilà. Ceux qui ont l'idée d'un utopique commencement idéal des communautés chrétiennes voient que déjà l'apôtre Paul posait un problème, et 30 ans plus tard, l'épître de Jacques rappellera la même situation. C'est au fond que ceux qui avaient de quoi avaient apporté, beaucoup, un petit peu. Et puis, ceux qui n'avaient rien, eh bien, ils attendaient que les autres aient fini pour reprendre les chants et les prières. Il y avait donc un scandale qui se posait dans cette cohabitation des premières communautés chrétiennes entre des gens riches et des gens pauvres. Il y a donc un scandale qui est dénoncé au cours du Nouveau Testament, mais d'une certaine manière, ce scandale existait déjà au temps du judaïsme ancien. Il y avait, on le voit dans les psaumes, la référence dans quelques cas à ce qu'on appelle les pauvres du Seigneur. Et on peut penser que ce courant avait une spiritualité un peu particulière qui effleure de temps en temps au milieu de l'histoire des rois, des prêtres, des gens qui ont pignon sur rue. Ce mouvement des pauvres nous mènerait à Élisabeth ou Marie. J'ai toujours pensé que ce qu'on appelle le cantique de Marie est en fait un cantique d'Élisabeth, mais le chant attribué à Marie commence par « Tu as posé tes yeux sur l'humilité de ta servante, sur sa bassesse, sur sa basse condition. » Et il y a à un moment dans ce cantique ce propos: il a comblé de bien ceux qui avaient faim et il a renvoyé les riches les mains vides. Nous avons là une logique de renversement de la table. Le chant donc qui ouvre un autre projet du monde ou qui crée de nouveaux critères pour regarder ce qu'est la vie juste, la vie qui ouvre du sens. Une contestation de tous les binômes antagonistes pour les remettre en question, ouvrir un nouveau chemin. Le christianisme, donc, dans ce chant attribué à Marie, s'ouvre comme une utopie idéaliste, mais en même temps parfois comme la réalisation d'un projet à l'œuvre, et c'est ce que je vais essayer de retracer arbitrairement avec quelques extraits de texte. Mais je ne pouvais pas ne pas commencer en mentionnant « Il a comblé de bien ceux qui avaient faim ». Il y a donc un enjeu majeur dans le programme au début de l'évangile de Luc. Toujours dans l'évangile de Luc, il y a un moment où Jésus est dans un repas. Il y a beaucoup de repas de Jésus, mais avec des gens bien ou avec des gens mal famés. Mal famés au sens de mauvaise réputation, pas au sens de ayant faim. Donc Jésus dit à celui qui l'avait invité: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins, sinon eux aussi t'inviteront en retour et cela te sera rendu. Donc au fond, c'est le doigt mis sur une espèce d'entre-soi qui n'engage à rien, puisqu'au fond on a une espèce de convivialité qui tourne en rond. Et honte à celui qui ne prendrait pas sa part d'inviter à son tour. Une espèce de bon, voilà. Pourtant, s'inviter entre copains, ça fait partie des pratiques. Et on voit qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est une pratique assez fréquente. J'étais pas attentif quand j'étais plus jeune, mais j'ai jamais vu dans les documents qu'on nous livre, par exemple en supplément à Midi Libre ou autre, autant de publicité sur les nourritures de qualité, les lieux où on mange bien, etc., comme si c'était le nouvel horizon de vie, mais qui est un étalage indécent d'une certaine manière, parce qu'il y a ceux qui ne peuvent pas y aller. Voilà. Alors, si j'avais parlé des miettes, c'est parce que j'ai toujours été bouleversé et choqué par un texte dont parle l'évangéliste Marc, une rencontre qui vient bouleverser Jésus et même qui est choquante, parce que on nous dit que Jésus part sur le territoire de Tyr, donc au nord de la Galilée, et qu'il entre dans une maison sans qu'on le sache, mais ça ne reste pas ignoré. Une femme non juive, syro-phénicienne, dont la fille avait un esprit impur, entendit parler de lui, elle vient se jeter à ses pieds. Elle demandait à Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Et là, il y a un truc qui m'a toujours choqué. Mon image du Jésus bon, bienveillant, ouvert, généreux, se brise. Jésus lui répond, laisse d'abord les enfants se rassasier, c'est-à-dire, moi je m'occupe d'abord des enfants de l'alliance de Dieu avec son peuple. Car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. C'est insultant à cette femme qui est dans une détresse, qui dit, j'ai peut-être une solution. Donc, ce Jésus-là m'a toujours mis un coup dans le plexus. Bon, il se rattrape. Il se rattrape, mais que après. C'est la réponse de la femme qui est extraordinaire. C'est vrai. Il ne faut pas prendre ce qui est pour les enfants pour le donner aux petits chiens. Mais au moins, aux petits chiens, sous la table, on laisse les miettes qui ont été données aux enfants. D'où les miettes. Et là, Jésus répond, à cause de cette parole, il en sera fait selon ce que tu m'as demandé. Et puis, voilà. En fait, cette histoire de miettes pour les petits chiens, c'est en apparence cette solidarité qui coûte rien, puisqu'on a toujours des restes, on les laisse. Et d'une certaine manière, les restes ont été évoqués. Sauf que ce que ce petit récit étonnant dit, c'est qu'il pose que les miettes sont un droit. Tout d'un coup, cette femme renverse la table. Ce qui pourrait apparaître comme méprisant, hein, on vous laisse les miettes, on vous laisse les restes. Oui, mais au moins on nous les laisse. C'est autre chose que le refus. C'est autre chose que moi je ne m'occupe que des miens. Ou, comme on pouvait le faire dans la Rome antique, je ne m'occupe que de ma clientèle. Mais les autres pauvres qui ne sont pas dans ma clientèle, je ne m'en occupe pas. C'est un petit peu la difficulté des œuvres sociales du 19e siècle, qui était aussi une concurrence des camps religieux. Moi, je donne que si t'es catho, je donne que si t'es protestant. Alors, il y a quelques-uns de protestants qui essayaient de faire mieux en disant, mais moi, je donne aussi aux autres. Mais cette concurrence était quand même une gestion de clientèle. Or, là, ce que la femme dit, c'est, je ne suis pas de ta clientèle et j'ai droit aux miettes. Et c'est une étrangère. Il y a une autre solidarité sur les restes, qui est la vieille pratique agricole mentionnée dans le Premier Testament. Et c'est une très belle histoire de solidarité et d'amour, qui a d'ailleurs un grand avenir. Le livre de Ruth, dans le Premier Testament, est un de ces livres qui dit qu'il ne faut pas rester entre purs, mais que de l'étranger considéré comme impur peut venir quelque chose de bon. Ruth est une étrangère qui a épousé un juif. Et puis il meurt, et elle se retrouve avec sa belle-mère à gérer. Et Ruth vient auprès de sa belle-mère au pays de Judée. Et voilà que, elle profite de cette logique qui consiste à glaner ce qui reste au moment des moissons. Et elle va demander au propriétaire, laisse-moi glaner, ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et le propriétaire à qui Ruth demande ça, lui dit, ne va pas glaner dans un autre champ, glane dans mes champs, attache-toi à mes servantes et tu iras derrière elles. J'ai interdit aux serviteurs de te toucher, donc la menace que une femme pauvre et seule peut encourir. Quand tu auras soif, tu iras aux cruches qui sont mises là pour les travailleurs et tu pourras boire ce que les serviteurs auront puisé. Et à l'heure du repas, Boz, le propriétaire, lui approche, mange du pain, trempe ton morceau dans le vinaigre. Et là, elle n'a pas seulement le grain qu'elle a ramassé, elle a aussi part au repas des moissonneurs. Mais ça, c'est le patron qui en a rajouté. Il aurait pu se contenter, bon, ben, tu as pris les graines. Mais elle a droit, déjà, et elle ne prend pas tout. Elle en garde une part pour sa belle-mère. Et Boz va donner des ordres à ses serviteurs. Laissez-la glaner, même entre les gerbes. Vous ôterez même pour elle des javelles et quelques épis que vous lui laisserez à glaner. Voilà, vous en rajouterez, quoi. On n'est donc pas simplement là dans le ramassage des restes, cette espèce de pratique du monde rural qui a couru aussi au travers de siècles, mais on est dans quelqu'un qui en rajoute, qui organise. On est toujours dans le système du pauvre qui peut ramasser, mais le propriétaire finalement dit organiser qu'il en reste plus que ce que normalement, c'est ce qui est contraire aux règles de rentabilité et au ratio de ce que doit ramener un hectare. Mais voilà, les agriculteurs me comprendront. Alors, si j'ai sorti cette belle histoire de repas où elle rentre chaque soir avec une mesure d'orge et elle donne à sa mère, sa belle-mère, ce qu'elle a glané, et aussi le reste de son repas. Or, Ruth, c'est la grand-mère du roi David. Donc, derrière cette étrangère qui en est réduite à chercher les restes sur le champ, il y a toute la perspective biblique de l'avènement du roi David et donc de la reconnaissance d'une étrangère pauvre et de l'organisation de la solidarité à son égard. Et que c'est ça qui donne un avenir, du sens à une vie collective, à une nation. Alors, les miettes, les restes, c'est aussi, cette nécessité d'organiser quand même une attention pour ceux qui ont faim, pour qu'une société ne soit pas invivable. Donc au travers des siècles, Francine l'a décrit, c'est un peu ce qui se joue. Mais j'appelle ça, moi, les miettes ou le un peu plus. Alors, dans le texte biblique, on peut aller plus loin que strictement ce qui est de droit. Ainsi, je reprends le récit de Luc, où Jésus dit à un invité, n'invite pas à celui qui l'a invité, n'invite pas tes amis ni tes frères. Au contraire, quand tu donnes un festin, là c'est plus un déjeuner ou un dîner, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux parce qu'ils n'auront pas de quoi te rendre. En effet, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Et il se trouve que, il y a quelque temps, j'avais travaillé sur les hadiths, les commentaires du Coran qui essaient de fixer les règles. Et alors il y a toujours dans les piliers de l'islam, il y a l'aumône faite aux pauvres. Mais il y en a une plus particulière qui est liée au Ramadan, qui n'est pas l'aumône faite aux pauvres général. Et qui compte encore plus si quelqu'un saute des jours de jeûne pour des raisons il y a des raisons valables, licites, qui sont données pour des jours de jeûne, maladie, voyage à l'étranger, enfin tout un tas de critères. Et plusieurs hadiths mentionnent des gens, il y en a même un qui a fait un repas avec 30 personnes de cette catégorie, un pauvre, estropié, boiteux, aveugle. Et le hadith indique que quand la vie d'un homme s'achève, quand le souffle lui est retiré, le fait d'avoir donné ce repas à des pauvres pour compenser les jours de jeûne ratés, c'est ce qu'on ne peut pas enlever, contrairement à la vie qui a été enlevée, on ne peut pas enlever ça, ça fait partie du critère des justes. Donc on est là dans une perspective qui semble très clairement invitée. Mais il y a le festin donc. Alors le festin est très souvent évoqué. Jésus a plein de paraboles du festin, d'invitations au festin. Alors, parfois c'est des noces, mais souvent c'est le festin. Mais on n'y met pas ce qu'il mange. Et il y a un texte qui est en fait le référentiel. C'est dans Ésaïe 25, le banquet des nations, offert à tous les peuples, un banquet de viande grasse arrosée de vin fin, des viandes tendres et grasses, des vins fins bien décantés. Le texte poursuit, c'est là qu'il supprimera le voile de deuil que portaient les populations, la couverture de tristesse étendue sur tout le pays. Voilà, on a avec ce menu, le menu du grand festin. Alors, c'est un peu le grand banquet qui donne le sens ultime. Et c'est pas festin tous les jours. Mais au fond, c'est là qu'il y a un modèle de partage qui va plus loin que les miettes. Et toute l'histoire de nos solidarités, elle est tendue entre le sentiment que les miettes et les restes, c'est le moins qu'on puisse faire, mais que c'est pas satisfaisant. Quelque part, il y a qui j'invite à ma table. Quelque part, il y a qu'est-ce que je donne en partage. Et est-ce que ça me coûte sans que personne n'ait à me le rendre. C'est un sens nouveau qui est donné pour l'existence collective, pour faire résonner le chant attribué à Marie. Il a comblé de bien ceux qui avaient faim.
Vous êtes bien sûr Radio Alliance Plus 103.2 et vous venez d'écouter Jean-Christophe Muller, pasteur, théologien, engagé dans la vie associative, qui a donné cette intervention pour le colloque de l'APA, Association Protestante d'Assistance, qui a eu lieu lundi 4 décembre 2023. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine et à vous dire à la semaine prochaine.
Alliance Plus.